Donc maintenant, je vais passer tout de suite la parole à Arnaud Giesinger, qui est photographe, qui est diplômé de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles et qui aussi est un historien, donc il a une double casquette, lui aussi, et qui travaille beaucoup sur la question de mémoire et de l'oubli et de l'histoire de l'art également, ce qui dont fait preuve, par exemple, l'installation au Palais de Tokyo, qu'il a présenté avec Georges Didier Huberman autour de l'Atlas Mnemosyne de historien d'art allemand Abi Warburg. Je vous laisse la parole.
Merci beaucoup et bonsoir. On enchaîne bien, je pense, avec les images, mais je vais peut-être vous décevoir d'une certaine façon parce que je vais décaler le livre sur Lascaux vers la question de la photographie. Mon entrée dans l'univers Bataille s'est faite tardivement, aussi des aveux évidemment, indirectement et d'une certaine façon un peu par la fin. Ou à rebrousse-poil, comme disait Benjamin. Lors d'un séjour avec ma compagne dans la vallée de la Vézère, berceau et lieu d'invention de ce que nous appelons communément préhistoire, nous lisions le livre de Daniel Fabre, Bataille à Lascaux, comment l'art préhistorique apparut aux enfants, 2014. Je dois vous avouer que je ne suis pas spécialiste de bataille ni de préhistoire. Mais la lecture de ce livre et surtout l'expérience de l'art pariétal dans les hauts lieux comme Fond de Gaume ou les Combarelles, qui ne laissent pas indemne évidemment, m'ont amené à regarder de près ce livre, ce très grand classique de Georges Bataille, Lascaux ou la naissance de l'art, publié chez Skira en 1955. Voici la couverture du livre. J'ai amené le livre, mais j'ai aussi amené un petit silex, hein, si vous voulez toucher le silex par rapport aux images qui seront intouchables ici par projection. Et puisqu'on parle d'images, on va parler effectivement de la question de la lumière et on va parler de la question de la couleur aussi, puisque vous le savez très probablement, il s'agit là du premier tome d'une histoire comparée de la peinture, avec le titre aussi « Les couleurs des siècles ». Donc couleur là dans le double sens, parce que couleur, d'après la définition de Skira, un peu de, on va dire un style d'une époque, mais aussi couleur parce que cette collection était très révolutionnaire dans sa façon de produire des livres, notamment des reproductions en couleur, qui ne sont pas encore vraiment imprimées sur les pages, mais qui sont collées sur les pages. Donc c'est assez étonnant pour nous aujourd'hui, mais il faut s'imaginer une époque où les œuvres d'art se regardaient en noir et blanc, étaient transformées en noir et blanc. Donc la création de ce livre, qui a évidemment profondément marqué l'histoire de l'art du XXe siècle, Catherine vient de le confirmer, était une aventure commune entre donc Georges Bataille et Albert Skira, leur épouse aussi en partie, mais également de deux photographes, chose qu'on oublie souvent. Donc je suis là aussi pour réhabiliter les photographes. Hans Hinz, photographe balois, et Claudio Emmer, deux photographes qui ne sont pas rentrés dans l'histoire de la photographie parce que c'était des photographes, on dit, appliqués ou vernaculaires, si vous voulez, qui étaient là comme des opérateurs qui faisaient effectivement les images de Lascaux. Et pour moi, d'une certaine façon, un peu l'invention des images de Lascaux comme de la peinture. Hein. J'aimerais bien appeler cette petite intervention « Bataille ou l'invention de Lascaux » par la photographie couleur. Dans la préface, Albert Skira décrit cette expérience comme une apparition. Je cite « Nous avons passé des nuits sous terre, aveuglés par des projecteurs qui, répandant sur ce monde magique une puissante lumière, nous faisaient découvrir et l'éclat original des couleurs et certains détails invisibles à l'éclairage ordinaire de la grotte. » Je vais revenir tout à l'heure un peu là-dessus. Donc, l'éclat original des couleurs, certains détails invisibles à l'éclairage ordinaire de la grotte. Donc vous savez que la grotte est ouverte depuis peu, après la Seconde Guerre mondiale, découverte en 1940, et elle est visitée par beaucoup de gens à partir de 48. En même temps, Skira, qui est un homme très intelligent, qui est en contact évidemment aussi avec Malraux et avec plein d'autres contemporains, voit très bien les limites de la photographie. Et il dit dans sa préface, je recite, il fait une distinction entre la perception, entre l'œil et le corps, je dirais, et les images photographiques reproduites dans le livre. Je cite, « Ce que l'œil voit n'est pas nécessairement ce que l'appareil photographique enregistre. » Il faut le dire, les peintures de Lascaux sont mouvantes. Elles ne se présentent pas comme des surfaces planes dont on aurait une vision parfaite en se plaçant face à elles, à 2 ou 3 mètres de distance. Les artistes de la grotte ont tiré bien parti du relief et des aspérités des parois, tout comme de la perspective des salles, car à chaque pas, tout change. Quel est le point de vue idéal ? Chaque visiteur doit avoir le sien, et les hommes de Lascaux avaient le leur, que nous nous sommes efforcés de comprendre. Ajoutant que les sujets de Lascaux se défendent à la caméra, ou de la caméra, pardon, ils n'existent pas, pour la plupart d'entre eux, ce recul ou de recul suffisant pour les photographier. Donc Skira, qui passe effectivement des journées et des journées sous terre et qui observe ces deux photographes avec leur grande lampe qui l'amène dans une grotte, on va dire, à l'époque. Évidemment, il est pris par cette aventure et il fait l'expérience avec les photographes que tout d'un coup, on va voir ces peintures, pas du tout comme elles ont été faites ni vues à l'époque, mais sous la lumière des grandes lampes photographiques. Et donc, il dit que ça révèle des détails. Et puis, on peut voir enfin, je rajoute, un peu les couleurs originales. La relation entre Bataille et Lascaux a fait couler beaucoup d'encre, vous le savez. Et en effet, quand on lit aujourd'hui les thèses audacieuses de Bataille sur l'invention de l'art par l'homme de Lascaux, on se rend compte que le texte est assez daté, probablement, et marqué évidemment par son temps. Donc, vous le savez, les spécialistes préhistoriens ont beaucoup critiqué cette vision que Bataille a à l'époque. Mais je ne vais pas rentrer dans les contenus du texte, je vais m'intéresser effectivement pendant les 10 minutes qui suivent à Lascaux et les images photographiques. Peu importe, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de poser cette question de la photographie comme une sorte d'invention de Lascaux par des images. On aurait pu d'ailleurs imaginer effectivement une entrée, voilà, Lascaux ou Bataille et la photographie, etc. Je sais que vous savez aussi que Bataille, évidemment, a beaucoup, beaucoup de connaissances, une connaissance très poussée de la photographie contemporaine, de ses contemporains, évidemment. Il suffit de regarder documents, etc., etc. Mais je n'ai pas trouvé trace véritablement, mais puisque je ne suis pas spécialiste, je suis très prudent, d'une approche conceptuelle de la photographie. Est-ce que Bataille aurait réfléchi vraiment sur la photographie ? J'ai posé la question à quelques spécialistes, on m'a dit non, mais évidemment, vous le savez bien, c'est un monteur d'images absolument inouï, et puis là aussi, il suffit de regarder effectivement la revue Documents. Mais il y a une coïncidence qui est importante, car avant le livre sur Lascaux, le même Albert Skira avait publié Le Musée imaginaire. Le Musée imaginaire de Malraux, 47, et vous connaissez la fameuse phrase sur les relations entre la photographie et l'histoire de l'art. Je cite cette fameuse phrase de Malraux. L'histoire de l'art, depuis 100 ans, depuis qu'elle échappe aux spécialistes, est l'histoire de ce qui est photographiable. Autrement dit, et j'extrapole un petit peu, depuis l'invention de la photographie et son rôle de reproductibilité et de reproduction des œuvres, nous connaissons l'art à travers la photographie. Donc ce qui n'est pas photographié n'est pas connu. Et je pense que c'est un phénomène qui est démultiplié aujourd'hui, évidemment, avec les circulations des images. Donc une question se posait de façon très importante à l'époque. Donc en effet, on est au début des années 50. Est-ce que ce lieu, Lascaux, est photographiable? Et si oui, comment on le photographie? Donc je vous montre deux petites photographies qui montrent effectivement cette expérience, bien évidemment en noir et blanc. On voit ici quelqu'un qui regarde l'art pariétal, hein, avec un livre dans la main et avec une sorte d'admiration. Hein. On est effectivement dans une petite photographie de documentation de ce vécu. Et puis on a une deuxième image, Bataille et Albert Skira à Lascaux. Et vous voyez effectivement Bataille qui montre quelque chose et Albert Skira qui fait une photographie. Donc, il fait probablement avec son petit Leica une photographie. Mais bien évidemment, pour faire cette photographie, il y a un photographe qui est derrière. Et c'est le fameux Hans Hinz qui va non seulement photographier l'expérience de ses peintures, mais aussi l'expérience tout court de cette perception des images. Et vous le voyez très bien sur cette image-là, il y a beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière parce que Hans Hinz et Claudio Emmer vont amener donc beaucoup de lumière, hein, ce qui pour eux est totalement logique dans la conception. Et juste un mot sur les deux photographes. Hans Hinz était le grand spécialiste de la reproduction des œuvres à l'époque, balois, un des premiers à expérimenter effectivement avec la couleur. Vous le savez peut-être, la photographie couleur, bah, c'est un fantasme du 19e siècle, mais jusqu'à l'autochrome au début du 20e, on n'a pas cette possibilité de la photographie en couleur. Ça commence dans les années 30-40 à rentrer vraiment dans les usages de la photographie. Mais par contre, reproduire des œuvres, ça reste extrêmement difficile et surtout aussi d'imprimer les photographies en couleur. Il y a une relation très intéressante qui est montrée dans cette image que j'ai prise dans une revue suisse, Doux, que vous connaissez peut-être, qui a fait un petit reportage il y a quelques années sur Hans Hinz, le grand inconnu, en fait, l'opérateur que tout le monde a oublié dans cette histoire. Et ce Hans Hinz, il a photographié ici en 53 à Milan, le Palazzo Reale, une exposition de Picasso de 53, les grandes œuvres de Picasso. Ici, vous voyez la guerre, et c'est en couleur, ce qui est effectivement pour les contemporains un petit choc visuel, on va dire. Et c'est très intéressant parce que ce tableau est, comme vous le voyez, posé sur cette structure, et derrière, vous voyez le Palazzo Reale qui est encore un peu en ruine, dû au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Et en l'occurrence, c'est le même Claudio Emmer qui, lui, a fait des photographies de Milan bombardées en 1943. Donc les deux hommes se connaissent. Claudio Emmer cale un petit peu sur cette question de la reproduction de la couleur. Et c'est finalement Hans Hinz qui va amener effectivement sa connaissance. Donc je ne vais pas vous faire un long débat sur cette question, je voulais juste pointer deux questions essentielles qui pour moi effectivement font que Lascaux est inventé photographiquement. Tout d'abord la question de la lumière et deuxièmement la question de la couleur. Donc je vais très rapidement vous montrer quelques images pour, de façon un peu déontologique, faire cette analogie avec deux grandes conceptions, deux grands mythes, si vous voulez, qui travaillent avec la question du souterrain, de la grotte. D'un côté, vous avez le mythe de la caverne, ici représenté avec une lithographie de 1604 de Jan Sandredam. Et puis évidemment aussi la question de la caméra obscura, aussi on est au XVIIe siècle avec Athanasius Kircher dans Ars Magna Lucis et Ombre. Donc probablement il y a une relation assez étroite entre cette question de la lumière ou de l'absence de la lumière, entre la connaissance, évidemment la caverne, mais aussi la formation de la photographie qui, comme vous le savez, est basée sur le principe de la caméra obscura. Et le Daniel Fabre que j'ai cité tout à l'heure est effectivement quelqu'un qui va aussi dans son livre faire la comparaison entre ces découvertes des cavernes, des grottes, et en parallèle au 19e siècle le culte de la lumière ou les cultes de la lumière, les apparitions de Marie, une relation très intéressante. intéressante, que j'ai trouvé moi aussi intéressante dans la question photographique même, et je reviens évidemment à la question de comment on produit des images au 19e siècle et au 20e siècle. Je vous montre une petite illustration ici, typique d'une situation de prise de vue dans un studio photographique, pour vous dire que très logiquement, dans un siècle qui ne connaît pas encore l'électricité et les flashs et les grandes lampes, une prise de vue à l'intérieur se fait en lumière du jour. C'est-à-dire qu'on fait rentrer par des vitres la lumière du jour, le photographe en face de son modèle, et vous le voyez ici, on dirige cette lumière du jour, où on la soutient avec des réflecteurs aussi, mais en tout cas, on prend de la lumière qu'on va poser effectivement sur cette personne qui est éclairée par le plein et par la lumière. Il y a un changement radical et fondamental dans le XXe siècle parce que les photographes de studio vont éclairer les choses à partir du noir. Donc un studio photographique ou un studio cinématographique, par définition, est noir, comme une grotte, et on va amener de la lumière. Donc toute la question va être comment on amène de la lumière dans ces espaces. J'ai une petite citation de mon amie Marina Gadonex qui a fait cette magnifique série de photographies qui s'appelle After the Image, où elle a photographié des dispositifs de reproduction d'œuvres d'art, mais juste dans le moment après. Donc l'œuvre a disparu de cette situation, mais vous voyez que les sources lumineuses, en fait, que le photographe avait posées pour photographier ces sculptures. Donc, pour vous dire qu'effectivement, cette question de la lumière est très importante pour Lascaux, parce que, d'une façon ou d'une autre, il y a trop de lumière. On amène beaucoup de lumière et on va, d'une certaine façon, presque écraser les peintures. Donc, on va voir des choses qu'on ne peut pas voir, mais en même temps, on éclaire presque trop. Et puis une deuxième question, très rapidement, la question de la couleur, qui est aussi essentielle à la photographie, comme je disais tout à l'heure, il faut se rendre compte là aussi que la couleur en photographie est bien évidemment une construction. On ne peut pas directement photographier la couleur. Toute la photographie couleur, dans son invention technique, est l'idée de reproduire techniquement, chimiquement, ou de façon électronique aujourd'hui, quelque chose qui va se rapprocher de la question de la perception de l'œil. Donc évidemment, photographier avec ces lampes-là, ces peintures, c'est très compliqué, tout d'abord techniquement, mais après, c'est aussi la question de quelle couleur parle-t-on et de quelle température de couleur parle-t-on. Donc, mon hypothèse de travail, je vous montre quelques images de ce livre de l'intérieur que vous connaissez peut-être. Donc, il y a des prises de vue des cavités où on voit effectivement cette situation. Je pense que Skira et Bataille insistaient beaucoup là-dessus, de montrer effectivement toute la situation quand on rentre. Mais il y a aussi, surtout, et ce qui m'intéresse, donc une deuxième vue, effectivement, pour vous redonner envie de lire et de regarder ce livre. Mais il y a aussi un effet, je dirais, de peinture ou de cadrage ou de photographie comme de la peinture, parce que mon hypothèse de travail, ça serait de dire que pour faire rentrer l'expérience de Lascaux dans l'histoire de la peinture, bah, il faut la photographier comme de la peinture, et il faut la photographier effectivement et la présenter ensuite dans le livre un peu comme des photographies. Vous voyez bien que ces prises de vue frontales aplatissent d'une certaine façon, et Skira l'a bien vu aussi, d'où la préface, elles aplatissent, mais en même temps elles transforment ces expériences dans les parois vers une peinture plate, et qui permettent à la fois d'intégrer effectivement cette tradition dans une grande histoire de peinture, même l'invention de l'origine de la peinture, mais en même temps, ça permet bien évidemment aussi de faire circuler ces images, et je termine là-dessus. Effectivement, deuxième hypothèse de travail, malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont visiter Lascaux à partir des années 40, la connaissance de Lascaux est essentiellement une connaissance photographique, encore plus que l'art primitif, entre guillemets, qui peut se visiter, qui peut se regarder sous forme de masques ou d'autres objets, tandis que Lascaux, effectivement, il faut une empreinte, une réalisation photographique pour faire circuler les images. Donc probablement, c'est les photographies et les photographies de couleurs trop éclairées, si j'ose dire, qui vont créer notre image de Lascaux. Merci.
Merci beaucoup, Arnaud Giesinger. Merci pour ces deux interventions.